Jean de la Bruyère, les caractères de l'homme. Première partie. Ne nous emportons point contre les hommes, en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes et l'oubli des autres. Ils sont ainsi faits, c'est leur nature. C'est ne pouvoir supporter que la pierre tombe ou que le feu s'élève. Les hommes, en un sens, ne sont point légers ou ne le sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances. Ils changent de goût quelquefois. Ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal, ou dans l'indifférence pour la vertu. Le stoïcisme est un jeu d'esprit et une idée semblable à la République de Platon. Les stoïques ont faim qu'on pouvait rire dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes des biens, comme à celles des parents et des amis, regarder froidement la mort, et comme une chose indifférente, qui ne devait ni réjouir, ni rendre triste, n'être vaincu ni par le plaisir, ni par la douleur, sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps, sans pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme. Et ce fantôme de vertu et de constance, ainsi imaginé, il leur a plu de l'appeler un sage. Ils ont laissé à l'homme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés et n'ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l'en corriger, ils lui ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme dont il n'est point capable et l'ont exhorté à l'impossible. Ainsi, le sage, qui n'est pas, ou qui n'est qu'imaginaire, se trouve naturellement et par lui-même au-dessus de tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne saurait lui arracher une plainte. Le ciel et la terre peuvent être renversés sans l'entraîner dans leur chute. Il demeurerait ferme sur les ruines de l'univers. Pendant que l'homme, qui est en effet hors de son sens, crie, se désespère, étincelle des yeux et perd la respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine. Pendant que l'homme, qui est en effet sort de son sens, crie, se désespère, étincelle des yeux et perd la respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces. Inquiétude d'esprit, inégalité d'humeur, inconstance de cœur, incertitude de conduite. Tous vices de l'âme, mais différents, et qui, avec tout le rapport qui paraît entre eux, ne se supposent pas toujours l'un l'autre dans un même sujet. Il est difficile de décider si l'irrésolution rend l'homme plus malheureux que méprisable. De même, s'il y a toujours plus d'inconvénients à prendre un mauvais parti qu'à n'en prendre aucun. Un homme inégal n'est pas un seul homme, ce sont plusieurs. Il se multiplie autant de fois qu'il a de nouveaux goûts et de manières différentes. Il est à chaque moment ce qu'il n'était point. Et il va être bientôt ce qu'il n'a jamais été. Il se succède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses complexions, ni de quelle humeur, mais de combien il a de sortes d'humeur. Ne vous trompez-vous point. Est-ce Décrate que vous abordez? Aujourd'hui, quelle glace pour vous! Hier, il vous recherchait, il vous caressait. Vous donniez de la jalousie à ses amis. Vous reconnaît-il bien? Dites-lui votre nom. Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir. Il la referme. Il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit. Et, venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié. Il voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S'il marche dans les places, il se sent tout d'un coup rudement frappé à l'estomac ou au visage. Il ne soupçonne point ce que ce peut être. Jusqu'à se couvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un limon de charrette ou derrière un long quai de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l'a vu une fois, heurté du front contre celui d'un aveugle, s'embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui, chacun de son côté, à la renverse. Il lui arrivait plusieurs fois de se trouver tête pour tête à la rencontre d'un prince, et sur son passage, se reconnaître à peine, et n'avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe, il appelle ses valets l'un après l'autre. On lui perd tout, on lui égare tout. Il demande ses gants qu'il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masque lorsqu'elle l'avait sur son visage. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée. Où est celui qui montre ses oreilles et à qui il manque une perruque? S'il va par la ville, après avoir fait quelques chemins, il se croit égaré. Il s'émeut et il demande où il est à des passants, qui lui disent précisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d'où il sort précipitamment, croyant qu'il s'est trompé. Il descend du palais, et, trouvant au bas du grand degré un carrosse qu'il prend pour le sien, il se met dedans. Le cocher touche et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet. Tout lui est familier, rien ne lui est nouveau. Il s'assit, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive. Celui-ci se lève pour le recevoir. Il le traite fort civilement, le prie de s'asseoir et croit faire les honneurs de sa chambre. Il parle, il rêve, il reprend la parole. Le maître de la maison s'ennuie et demeure étonné. Ménalque ne l'est pas moins et ne dit pas ce qu'il en pense. Il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif qui se retirera à la fin. Il l'espère, et il prend patience. La nuit arrive qu'il est à peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à une femme, et, se persuadant bientôt que c'est lui qui la reçoit, il s'établit dans son fauteuil et ne songe nullement à l'abandonner. Il trouve ensuite que cette dame fait ses visites longues. Il attend à tout moment qu'elle se lève et le laisse en liberté. Mais comme cela tire en longueur, qu'il a faim et que la nuit est déjà avancée, il l'a pris à souper. Elle rit si haut qu'elle le réveille. Lui-même se marie le matin, l'oublie le soir et découche la nuit de ses noces. Et quelques années après, il perd sa femme. Elle meurt entre ses bras. Il assiste à ses obsèques et le lendemain, quand on lui vient dire qu'on a servi, il demande si sa femme est prête et si elle est avertie. C'est lui encore qui entre dans une église, et prenant l'aveugle qui est collé à la porte pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son front, lorsqu'il entend tout d'un coup le pilier qui parle et qui lui offre des oraisons. Il s'avance dans la nef, il croit voir un prie-Dieu. Il se jette lourdement dessus. La machine plie, s'enfonce et fait des efforts pour crier. Ménalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d'un fort petit homme, appuyé sur son dos, les deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche. Il se retire confus et va s'agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière, et c'est sa pantoufle qu'il a prise pour ses heures et qu'il a mise dans sa poche avant que de sortir. Il n'est pas hors de l'église qu'un homme du livret court après lui. Le joint lui demande en riant s'il n'a point la pantoufle de Monseigneur. Ménalque lui montre la sienne et lui dit « Voilà toutes les pantoufles que j'ai sur moi. » Il se fouille néanmoins et tire celle de l'évêque de, qu'il vient de quitter, qu'il a trouvé malade près de son feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle comme l'un de ses gants qui était à terre. Ainsi, Ménalque s'en retourne chez soi avec une pantoufle de moins. Il a, une fois, perdu au jeu tout l'argent qui est dans sa bourse, et voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qui lui plaît, croit la remettre où il l'a prise. Il entend aboyer dans son armoire qu'il vient de fermer. Étonné de ce prodige, il l'ouvre une seconde fois, et il éclate de rire d'y voir son chien, qu'il a serré pour sa cassette. Il joue au tric-trac. Il demande à boire. On lui en apporte. C'est à lui à jouer. Il tient le cornet d'une main et un verre de l'autre. Et comme il a une grande soif, il avale l'idée et presque le cornet, jette le verre d'eau dans le tric-trac et inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre où il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à terre, en croyant faire tout le contraire. Il se promène sur l'eau et il demande quelle heure il est. On lui présente une montre. À peine l'a-t-il reçue que, ne songeant plus ni à l'heure ni à la montre, il la jette dans la rivière comme une chose qui l'embarrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises et jette toujours la poudre dans l'encrier. Ce n'est pas tout. Il écrit une seconde lettre et après les avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l'adresse. Un duc et pair reçoit l'une de ces deux lettres et en l'ouvrant, il lit ces mots « Maître Olivier, ne manquez sitôt la présente reçue de m'envoyer ma provision de foin. » Son fermier reçoit l'autre. Il l'ouvre et se la fait lire. On y trouve. « Monseigneur, j'ai reçu avec une soumission aveugle les ordres qu'il a plu à votre grandeur. » Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit et après l'avoir cachetée, il éteint sa bougie. Il ne laisse pas d'être surpris de ne voir goutte. Et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l'escalier du Louvre. Un autre le monte, à qui il dit « C'est vous que je cherche. » Il le prend par la main, le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les salles, en sort, il va, il revient sur ses pas. Il regarde enfin celui qu'il traîne après soi depuis un quart d'heure. Il est étonné que ce soit lui. Il n'a rien à lui dire. Il lui quitte la main et tourne d'un autre côté. Souvent, il vous interroge, et il est déjà bien loin de vous quand vous songez à lui répondre. Ou bien, il vous demande en courant comment se porte votre père. Et comme vous lui dites qu'il est fort mal, il vous crie qu'il en est bien aise. Il vous trouve encore quelque autre fois sur son chemin. Il est ravi de vous rencontrer. Il sort de chez vous pour vous entretenir d'une certaine chose. Il contemple votre main. « Vous avez là, dit-il, un beau rubis. Est-il balai ? » Il vous quitte et continue sa route. Voilà l'affaire importante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il en campagne ? Il dit à quelqu'un qu'il le trouve heureux d'avoir pu se dérober à la cour pendant l'automne et d'avoir passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau. Il tient à d'autres discours, puis, revenant à celui-ci, « Vous avez eu, lui dit-il, de beaux jours à Fontainebleau. Vous y avez sans doute beaucoup chassé. » Il commence ensuite un conte qu'il oublie d'achever. Il rit en lui-même. Il éclate d'une chose qui lui passe par l'esprit. Il répond à sa pensée. Il chante entre ses dents. Il siffle. Il se renverse dans une chaise. Il pousse un cri plaintif. Il bâille. Il se croit seul. S'il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur son assiette. Il est vrai que ses voisins en manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables une grande cuillère pour la commodité du service. Il la prend, la plonge dans le plat, l'emplit, la porte à sa bouche, et il ne sort pas d'étonnement de voir répandu sur son linge et sur ses habits le potage qu'il vient d'avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner, ou s'il s'en souvient et qu'il trouve qu'on lui donne trop de vin, il en flanque plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite. Il boit le reste tranquillement et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu'il a jeté à terre, ce qu'on lui a versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité. On lui rend visite. Il y a un cercle d'hommes et de femmes dans la ruelle qu'il entretienne. Et en leur présence, il soulève sa couverture et crache dans ses draps. On le mène au Chartreux. On lui fait voir un cloître orné d'ouvrages, tous de la main d'un excellent peintre. Le religieux qui les lui explique parle de saint Bruno, du chanoine et de son aventure, en fait une longue histoire et la montre dans l'un de ses tableaux. Ménalque, qui, pendant la narration, est hors du cloître et bien loin au-delà, il revient enfin et demande au père si c'est le chanoine ou saint Bruno qui est damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve. Il lui parle de son défunt mari, lui demande comment il est mort. Cette femme, à qui ce discours renouvelle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la maladie de son époux qu'elle conduit depuis la veille de sa fièvre, qu'il se portait bien, jusqu'à l'agonie. Madame, lui demande Ménalque, qu'il avait apparemment écouté avec attention, n'aviez-vous que celui-là ? Il s'avise, un matin, de faire tout hâter dans sa cuisine. Il se lève avant le fruit et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-là, en tous les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis pour cette affaire qui l'a empêché de dîner et l'a fait sortir à pied, de peur que son carrosse ne le fît attendre. L'entendez-vous crier, gronder, s'emporter contre l'un de ses domestiques ? Il est étonné de ne le point voir. « Où peut-il être ? Dit-il. « Que fait-il ? Qu'est-il devenu ? Qu'il ne se présente plus devant moi. Je le chasse, dès à 7 heures. » Le valet arrive, à qui il demande fièrement d'où il vient. Il lui répond qu'il vient de l'endroit où il l'a envoyé et il lui rend un fidèle compte de sa commission. Vous le prendriez souvent pour tout ce qu'il n'est pas, pour un stupide car il n'écoute point et il parle encore moins, pour un fou car outre qu'il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des mouvements de tête involontaires, pour un homme fier et incivil car vous le saluez et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut, pour un inconsidéré car il parle de banqueroute au milieu d'une famille où il y a cette tâche d'exécution et d'échafaud devant un homme dont le père y a monté, de roture devant des roturiers qui s'enrichent et qui se donnent pour nobles. De même, il a dessein d'élever auprès de soi un fils naturel sous le nom et le personnage d'un valet. Et quoiqu'il veuille le dérober à la connaissance de sa femme et de ses enfants, il lui échappe de l'appeler son fils 10 fois le jour. Il a pris aussi la résolution de marier son fils à la fille d'un homme d'affaires, et il ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne se sont jamais mes alliés. Enfin, il n'est ni présent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation. Il pense et parle tout à la fois, mais la chose dont il parle est rarement celle à laquelle il pense. Aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec suite. Où il dit non, souvent il faut dire oui, et où il dit oui, il croyait qu'il veut dire non. Il a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il ne s'en sert point. Il ne regarde ni vous, ni personne, ni rien qui soit au monde. Tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu'il est le plus appliqué et d'un meilleur commerce, ce sont ces mots. Oui, vraiment. C'est vrai. Bon, tout de bon. Oui, da. Je pense qu'oui. Assurément. Ah, ciel. Et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas même placées à propos. Jamais. Il n'est avec ceux avec qui il paraît être. Il appelle sérieusement son laquais « monsieur ». Et son ami, il l'appelle. Il dit « votre révérence à un prince du sang » et « votre altesse à un jésuite ». Il entend la messe. Le prêtre vient d'éternuer. Il lui dit « Dieu vous assiste ». Il se trouve avec un magistrat. Cet homme, grave par son caractère, vénérable par son âge et par sa dignité, l'interroge sur un événement et lui demande si cela est ainsi. Ménalque lui répond « Oui, mademoiselle ». Il revient une fois de la campagne. Ses laquais, en livrée, entreprennent de le voler et y réussissent. Ils descendent de son carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui demandent la bourse et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses amis qui ne manquent pas de l'interroger sur les circonstances. Et il leur dit « Demandez à mes gens, ils y étaient ». L'incivilité n'est pas un vice de l'âme. Elle est l'effet de plusieurs vices, de la sotte vanité, de l'ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie. Pour ne se répandre que sur les dehors, elle n'en est que plus haïssable, parce que c'est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai cependant qu'il offense plus ou moins selon la cause qui le produit. Dire d'un homme colère, inégal, querelleux, chagrin, pointilleux, capricieux, c'est son humeur, n'est pas l'excuser comme on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands défauts sont irrémédiables. ce qu'on appelle humeur, est une chose trop négligée parmi les hommes. Ils devraient comprendre qu'il ne leur suffit pas d'être bons, mais qu'ils doivent encore paraître tels, du moins s'ils tendent à être sociables, capables d'union et de commerce, c'est-à-dire à être des hommes. L'on n'exige pas des âmes malignes qu'elles aient de la douceur et de la souplesse. Elles ne leur manquent jamais, et elles leur servent de piège pour surprendre les simples et pour faire valoir leurs artifices. L'on désirerait de ceux qui ont un bon cœur qu'ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants. Et qu'il fût moins vrai, quelquefois, que ce sont les méchants qui nuisent et les bons qui font souffrir. Le commun des hommes va de la colère à l'injure. Quelques-uns en usent autrement. Ils offensent et puis ils se fâchent. La surprise, où l'on est toujours de ce procédé, ne laisse pas de place au ressentiment. Les hommes ne s'attachent pas assez à ne point manquer les occasions de faire plaisir. Il semble que l'on entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et n'en rien faire. La chose la plus prompte et qui se présente d'abord, c'est le refus. Et l'on n'accorde que par réflexion. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes en général et de chacun d'eux en particulier. Et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde. Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d'esprit en est le père. Il est difficile qu'un fort malhonnête homme ait assez d'esprit. Un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle, à la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à celui qui s'opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux. L'on cherche en vain à le corriger par des traits de satire qui le désignent aux autres, et où il ne se reconnaît pas lui-même. Ce sont des injures dites à un sourd. Il serait désirable pour le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance publique qu'un coquin ne le fût pas au point d'être privé de tout sentiment. Il y a des vices que nous ne devons à personne, que nous apportons en naissant et que nous fortifions par l'habitude. Il y en a d'autres que l'on contracte et qui nous sont étrangers. L'on est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisance et tout le désir de plaire. Mais par les traitements que l'on reçoit de ceux avec qui l'on vit ou de qui l'on dépend, l'on est bientôt jeté hors de ses mesures et même de son naturel. L'on a des chagrins et une bile que l'on ne se connaissait point. L'on se voit une autre complexion. L'on est enfin étonné de se trouver dur et épineux. L'on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne composent pas comme une seule nation et n'ont point voulu parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des mêmes usages et d'un même culte. Et moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonnée de voir jusque à 7 ou 8 personnes se rassembler sous un même toit, dans une même enceinte, et composer une seule famille. Il y a d'étranges pères, et dont toute la vie ne semble occupée qu'à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort. Tout est étranger dans l'humeur, les mœurs et les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d'un courage fier et éloigné de toute bassesse. Les besoins de la vie, la situation où l'on se trouve, la loi de la nécessité force la nature et y cause ses grands changements. Ainsi, tel homme, au fond et en lui-même, ne se peut définir. Trop de choses qui sont hors de lui l'altèrent, le changent, le bouleversent. Il n'est point précisément ce qu'il est ou ce qu'il paraît être. La vie est courte et ennuyeuse. Elle se passe tout à désirer. L'on remet à l'avenir son repos et ses joies. À cet âge, souvent, où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs. On en est là, quand la fièvre nous saisit et nous étreint. Si l'on eût guéri, ce n'était que pour désirer plus longtemps. Lorsqu'on désire, l'on se rend à discrétion à celui de qui l'on espère. Étant sûr d'avoir, on temporise, on parlemente, on capitule. Il est si ordinaire à l'homme de n'être pas heureux et si essentiel à tout ce qui est un bien d'être acheté par mille peines, qu'une affaire qui se rend facile devient suspecte. L'on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avantageux, ou qu'avec des mesures justes, l'on doive si aisément parvenir à la fin que l'on se propose. L'on croit mériter les bons succès, mais n'y devoir compter que fort rarement. L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux pourrait du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L'envie lui ôte cette dernière ressource. Quoi que j'aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont tort. Les hommes semblent être nés pour l'infortune, la douleur et la pauvreté. Peu en échappent, et comme toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce. Les hommes ont tant de peine à s'approcher sur les affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appartient et si bas ce qui appartient aux autres, que j'avoue que je ne sais par où et comment se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances. À quelques-uns, l'arrogance tient lieu de grandeur, l'inhumanité de fermeté et la fourberie d'esprit. Les fourbes croient aisément que les autres le sont. Ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps. Je me rachèterai toujours fort volontiers d'être fourbe, paraître stupide, et passer pour tel. On ne trompe point en bien. La fourberie ajoute la malice au mensonge. S'il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu'on appelle des hommes, fins ou entendus, et de ceux qui tirent autant de vanité que de distinction d'avoir su, pendant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment voulez-vous qu'hérophile, à qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux-mêmes qu'il a ou manqué de servir ou désobligé, ne présume pas infiniment de soi et de son industrie. L'on entend dans les places et dans les rues des grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d'exploit, de saisie, d'interrogatoire, de promesse et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le monde la plus petite équité? Serait-il au contraire rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur est pas dû ou qui refusent nettement de rendre ce qu'ils doivent? Par chemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les hommes de leurs paroles, honte de l'humanité, ôter les passions, l'intérêt, l'injustice, quel calme dans les plus grandes villes. Les besoins et la subsistance n'y font pas le tiers de l'embarras. Rien n'engage tant un esprit raisonnable à supporter tranquillement des parents et des amis les torts qu'ils ont à son égard que la réflexion qu'il fait sur les vices de l'humanité. Et combien il est pénible aux hommes d'être constants, généreux, fidèles, d'être touchés d'une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il connaît leur portée, il n'exige point d'eux qu'ils pénètrent les corps, qu'ils volent dans les airs, qu'ils aient de l'équité. Il peut haïr les hommes en général, où il y a si peu de vertu. Mais il excuse les particuliers, il les aime, même, par des motifs plus relevés. Et il s'étudie à mériter le moins qu'il se peut une pareille indulgence. Il y a de certains biens que l'on désire avec emportement, et dont l'idée seule nous enlève et nous transporte. S'il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu'on ne l'eût pensé. On en jouit moins que l'on aspire encore à de plus grands. Il y a des maux effroyables et d'horribles malheurs où l'on ose penser et dont la seule vue fait frémir. S'il arrive que l'on y tombe, l'on se trouve des ressources que l'on ne se connaissait point. L'on se raidit contre son infortune et l'on fait mieux qu'on ne l'espérait. Il ne faut point, quelquefois, qu'une jolie maison dont on hérite, qu'un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître, qu'une tapisserie, qu'une pendule, pour adoucir une grande douleur et pour faire moins sentir une grande perte. Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu'ils se feraient, alors, une plus grande affaire de leur établissement qu'ils ne s'en font dans l'état où sont les choses. Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter. Si elle est heureuse, il est horrible de la perdre. L'un revient à l'autre. Il n'y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et qu'ils ménagent moins que leur propre vie. Irène se transporte à grands frais en Épidaure, voit Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses maux. D'abord, elle se plaint qu'elle est lasse et recrue de fatigue. Et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit. L'oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et quel remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi et, quelquefois, se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible. L'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions, et il ajoute qu'elle fasse diète. « Ma vue s'affaiblit, » dit Irène. « Prenez des lunettes, » dit Esculape. « Je m'affaiblis moi-même, » continue-t-elle, « et je ne suis ni si forte ni si saine que j'ai été. » « C'est, » dit le dieu, « que vous vieillissez. » Mais quel moyen de guérir de cette langueur ? Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeul. Fils d'Apollon, s'écrie Irène, quel conseil me donnez-vous ? Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre ? Que m'apprenez-vous de rare et de mystérieux ? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez ? Que n'en usiez-vous donc ? Répond le dieu. Sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un long voyage. La mort n'arrive qu'une fois et se fait sentir à tous les moments de la vie. Il est plus dur de l'appréhender que de la souffrir. L'inquiétude, la crainte, l'abattement n'éloignent pas la mort, au contraire. Je doute seulement que le riz excessif convienne aux hommes, qui sont mortels. Ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est incertain. C'est un indéfini dans le temps qui tient quelque chose de l'infini et de ce qu'on appelle éternité. Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la florissante jeunesse qui n'est plus et ne reviendra point, la caducité suivra, qui nous fera regretter l'âge viril où nous sommes encore, et que nous n'estimons pas assez. L'on craint la vieillesse que l'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre. L'on espère de vieillir et l'on craint la vieillesse, c'est-à-dire l'on aime la vie, et l'on fuit la mort. C'est plutôt fait de céder à la nature et de craindre la mort que de faire de continuels efforts, s'armer de raison et de réflexion, et être continuellement aux prises avec soi-même pour ne la pas craindre. Si de tous les hommes, les uns mouraient, les autres non, ce serait une désolante affliction que de mourir. Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort, afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qui restent. À parler humainement, la mort a un bel endroit qui est de mettre fin à la vieillesse. La mort, qui prévient la caducité, arrive plus à propos que celle qui la termine. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. S'ils repassent alors sur tout le cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertu ni action louable qui les distingue les unes des autres. Ils confondent leurs différents âges. Ils n'y voient rien qui marque assez pour mesurer le temps qu'ils ont vécu. Ils ont eu un songe confus, informe et sans aucune suite. Ils sentent néanmoins, comme ceux qui s'éveillent, ils ont dormi longtemps. Il n'y a pour l'homme que trois événements, naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. il y a un temps où la raison n'est pas encore, où l'on ne vit que par instinct à la manière des animaux, et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps où la raison se développe, où elle est formée et où elle pourrait agir si elle n'était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la complexion et par un enchaînement de passions qui se succèdent les unes aux autres et conduisent jusqu'au troisième et dernier âge. La raison, alors dans sa force, devrait produire. Mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine qui est dans son déclin. Et ces temps, néanmoins, sont la vie de l'homme. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colère, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir de mal et aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Les enfants n'ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent. Le caractère de l'enfance paraît unique. Les mœurs dans cet âge sont assez les mêmes, et ce n'est qu'avec une curieuse attention qu'on en pénètre la différence. Elle augmente avec la raison, parce qu'avec celle-ci, croissent les passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux et si contraires à eux-mêmes. Les enfants ont déjà de leur âme l'imagination et la mémoire, c'est-à-dire ce que les vieillards n'ont plus, et ils en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amusements. C'est par elles qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu dire, qu'ils contrefont ce qu'ils ont vu faire, qu'ils sont de tout métier, soit qu'ils s'occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu'ils imitent les divers artisans par le mouvement et par le geste, qu'ils se trouvent à un grand festin et y font bonne chère, qu'ils se transportent dans des palais et dans des lieux enchantés, que, bien que seuls, ils se voient en un riche équipage et un grand cortège, qu'ils conduisent des armées, livrent bataille et jouissent du plaisir de la victoire, qu'ils parlent au roi et au plus grand prince, qu'ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets, possèdent des trésors, qu'ils peuvent faire de feuilles d'arbres ou de grains de sable. Et ce qu'ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à cet âge être les arbitres de leur fortune et les maîtres de leur propre félicité. Il n'y a nul vice extérieur et nul défaut du corps qui ne soit aperçu par les enfants. Ils les saisissent d'une première vue et ils savent les exprimer par des mots convenables. On ne nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont moqués. L'unique soin des enfants est de trouver l'endroit faible de leur maître, comme de tous ceux à qui ils sont soumis. Dès qu'ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus et prennent sur eux un ascendant qu'ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une première fois de cette supériorité à leur égard est toujours ce qui nous empêche de la recouvrer. La paresse, l'indolence et l'oisiveté, vices si naturels aux enfants, disparaissent dans leur jeu, où ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres et recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu'ils ont manquée. Présage certain, qu'ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais qu'ils n'oublieront rien pour leur plaisir. Aux enfants, tout paraît grand. Les cours, les jardins, les édifices, les meubles, les hommes, les animaux. Aux hommes, les choses du monde paraissent ainsi. Et j'ose dire par la même raison. Parce qu'ils sont petits. Les enfants commencent entre eux par l'état populaire. Chacun y est le maître. Et ce qui est bien naturel, ils ne s'en accommodent pas longtemps et passent au monarchique. Quelqu'un se distingue ou par une plus grande vivacité, ou par une meilleure disposition du corps, ou par une connaissance plus exacte des jeux différents et des petites lois qui les composent. Les autres lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur le plaisir. Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu'ils ne jugent, qu'ils ne raisonnent conséquemment? Si c'est seulement sur de petites choses, c'est qu'ils sont enfants et sans une longue expérience. Et si c'est en mauvais termes, c'est moins leur faute que celle de leurs parents ou de leurs maîtres. C'est perdre toute confiance dans l'esprit des enfants et leur devenir inutile que de les punir des fautes qu'ils n'ont point faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent précisément et mieux que personne ce qu'ils méritent, et ils ne méritent guère que ce qu'ils craignent. Ils connaissent si c'est à tort ou avec raison qu'on les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal ordonnées que par l'impunité. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes. On en commet pendant tout le cours de sa vie. Et tout ce que l'on peut faire à force de faillir, c'est de mourir corrigé. Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme d'avoir su éviter de faire une sottise. Le récit de ses fautes est pénible. On veut les couvrir et en charger quelque autre. C'est ce qui donne le pas au directeur sur le confesseur. Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à prévoir qu'elles mettent les sages en défaut et ne sont utiles qu'à ceux qui les font. L'esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu'aux petitesses du peuple. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu'il a gagnée à veiller sa femme, qu'il n'aimait point. Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils cachent avec soin l'envie qu'ils ont d'être estimés, parce que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu, je veux dire l'estime et les louanges, ce ne serait plus être vertueux, mais aimer l'estime et les louanges, ou être vain. Les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels. Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi. Un homme modeste ne parle point de soi. On ne voit point mieux le ridicule de la vanité et combien elle est un vice honteux qu'en ce qu'elle n'ose se montrer et qu'elle se cache souvent sous les apparences de son contraire. La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité. Elle fait que l'homme vain ne paraît point tel et se fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère. C'est un mensonge. La fausse gloire est l'écueil de la vanité. Elle nous conduit à vouloir être estimés par des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu'on les relève. C'est une erreur. Les hommes parlent de manière sur ce qui les regarde, qu'ils n'avouent d'eux-mêmes que de petits défauts, et encore ceux qui supposent en leur personne de beaux talents ou de grandes qualités. Ainsi, l'on se plaint de son peu de mémoire, content d'ailleurs de son grand sens et de son bon jugement. L'on reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s'il nous accordait le bel esprit. L'on dit de soi qu'on est maladroit et qu'on ne peut rien faire de ses mains. Fort consolé de la perte de ses petits talents par ceux de l'esprit ou par les dons de l'âme que tout le monde nous connaît. L'on fait l'aveu de sa paresse en des termes qui signifient toujours son désintéressement et que l'on est guéri de l'ambition. L'on ne rougit point de sa malpropreté qui n'est qu'une négligence pour les petites choses et qui semble supposer qu'on n'a d'application que pour les solides et essentielles. Un homme de guerre aime à dire que c'était par trop d'empressement ou par curiosité qu'il se trouva un certain jour à la tranchée ou en quelque autre poste très périlleux, sans être de garde ni commandé. Et il ajoute qu'il en fut repris de son général. De même, une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence que les autres hommes cherchent vainement à acquérir, qui a fortifié la trempe de son esprit par une grande expérience, que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l'importance des affaires occupent seulement et n'accablent point, qui par l'étendue de ses vues et de sa pénétration se rend maître de tous les événements, qui, bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est peut-être de ces âmes sublimes, nées pour régir les autres, et sur qui ses premières règles ont été faites, qui est détourné par les grandes choses qu'il fait, des belles ou des agréables qu'il pourrait lire, et qui, au contraire, ne perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions. Un homme ainsi fait peut dire aisément et sans se commettre qu'il ne connaît aucun livre et qu'il ne lit jamais.